Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice, ce soir, le retour de la théorie du criminel né avec Julien Larègue, sociologue, et Yves Cartuvels, juriste. En 1876, Cesare Lombroso publiait un livre qui allait faire grand bruit, intitulé « L'homme criminel, études anthropologiques et psychiatriques ». Il y développait la thèse que le comportement criminel serait le fruit de dispositions innées, et il s'opposait en ça à la conception plus sociologique qui cherchait la cause de la délinquance dans le milieu social. Près d'un siècle et demi après, cette thèse, qui n'a jamais totalement déserté l'horizon, à vrai dire, revient en force en ayant trouvé un renfort dans la génétique. Et Esprit de justice vous propose donc ce soir de faire le bilan des enjeux de cette nouvelle criminologie biosociale, c'est comme ça qu'on l'appelle, en compagnie de Julien Larègue, qui est sociologue, chercheur à l'université de Copenhague et qui vient de signer aux éditions du Seuil un ouvrage intitulé « Héréditaire, l'éternel retour des théories biologiques du crime ». Et pour en parler avec Julien Larègue, Yves Cartuvels, depuis Bruxelles où il enseigne, qui est juriste et criminologue, vice-recteur à la recherche aux universités Saint-Louis et qui va publier, qui a coordonné une livraison du Journal of Legal History consacrée précisément à la réception de l'école positive italienne au 19e siècle. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et donc, ma première question, elle ira à vous, Julien Larègue. Est-ce que vous pouvez dire un mot de Lombroso et de son fameux livre sur le criminel, l'homme criminel ?
Bien sûr. Alors, Lombroso, c'est un médecin anthropologue italien de la fin du 19e, début 20e, qui va, en fait, avant de travailler sur le criminel, travailler sur les races, avec une idée un peu évolutionniste, inspirée de Darwin, mais qui n'a rien à voir, en fait, avec Darwin, selon lesquelles il y aurait des races plus ou moins évoluées. Et Lombroso, en partant de cette idée, va ensuite développer celle selon laquelle les criminels seraient en fait plus semblables aux races inférieures et donc notamment aux Africains puisque c'est une époque coloniale et donc ils retrouveraient chez les criminels ce qu'ils retrouveraient ailleurs dans ce qu'il appelle les races inférieures.
Alors Yves Cartuvels, vous venez de travailler, comme je l'ai rappelé, à ce numéro international qui réunit un très grand nombre de contributeurs. Ce livre a immédiatement un écho, un retentissement absolument exceptionnel.
Alors oui, l'ouvrage de Lombroso a un retentissement effectivement très très important dans le monde occidental dans son ensemble. Lombroso est le père fondateur de ce qu'on appelle l'anthropologie criminelle. Alors, il n'est pas tout à fait exact de dire qu'il ait répondu à des analyses sociologiques du crime qui n'existaient pas vraiment à l'époque. Lombroso crée un courant qui va au fond s'opposer au droit pénal qui domine à l'époque, qui est un droit pénal de facture dite néoclassique. C'est-à-dire que c'est un droit pénal qui s'intéresse beaucoup à la question de la responsabilité morale du délinquant et c'est un droit pénal qui va être taxé de laxiste parce que l'école positive italienne dont Lombroso est donc un des pères fondateurs va reprocher à ce droit pénal néoclassique d'être laxiste et de ne pas défendre la société contre des individus dangereux. Donc vous avez là une bagarre frontale qui émerge entre le droit pénal en place qui se veut humaniste, qui est l'héritage des Lumières, et puis une nouvelle orientation qui prend appui sur la science positive, et qui commence à s'intéresser au criminel dans ce qu'il est, dans sa nature, dans les différents éléments qui peuvent le déterminer.
Alors Julien Larègue, la science, ben, on va en parler beaucoup ce soir de la science, parce que la science, eh ben, ça a été d'abord, il y a eu le chromosome surnuméraire dans les années 60.
Oui.
C'était quoi le chromosome surnuméraire?
Alors c'était une autre théorie d'inspiration biologique selon laquelle les hommes violents auraient un chromosome Y en trop, c'est-à-dire le chromosome de la masculinité, qui ferait qu'ils auraient grosso modo trop de testostérone et donc cela les rendrait violents. En fait, on va se rendre compte assez rapidement que cette théorie est tout à fait fausse scientifiquement. Malgré tout, l'idée demeure, y compris d'ailleurs chez certains professionnels du droit, ça m'est arrivé de discuter avec des avocats qui croyaient encore à cette théorie qui a été déboulonnée seulement quelques années plus tard, sa parution.
C'est ça. Parce que Yves Cartuvels, il y a une permanence depuis Lombroso et la réfutation des thèses de Lombroso. Il y a cette permanence qu'on va trouver une explication physiologique quasiment du crime.
Oui, c'est j'ai envie de dire un fantasme très très ancien et qui remonte à avant Lombroso, parce que Lombroso est un psychiatre italien, effectivement, avec son livre en 1867, il fait le scoop, si on veut, mais il ne tire pas cette théorie de nulle part. Vous avez eu des savants allemands, il y avait Gall auparavant, qui se sont intéressés à la question du crâne et à l'impact de ce qui pourrait se passer dans le crâne sur le passé à l'acte criminel. Donc je pense qu'il y a une fascination importante qui existe depuis très très longtemps pour la quête d'une sorte d'explication ultime qui permettrait de comprendre pourquoi certains actes, certaines personnes passent à l'acte criminel. Donc très très ancien.
Ultime et métamoral.
Ultime et métamorale, ou j'aurais envie de dire même métasociale, parce que le point aveugle peut-être de toutes ces démarches-là, c'est que elle réifie les concepts de crime ou de comportement antisocial. Elle ne s'interroge pas sur ce qu'est le crime, sur ce qu'est un comportement antisocial. Et ce sont évidemment des notions qui sont très très fluctuantes, qui varient dans le temps et dans l'espace. Et si on accepte que ces notions-là sont le fruit de variations, de constructions sociales, l'idée de chercher un gène derrière le délinquant n'a évidemment pas beaucoup de sens.
C'est ça.
Mais il y a quelque chose de fascinant dans cette tentation, dans cette tentative de biologisation de l'explication, peut-être parce qu'elle permet de faire l'économie d'une réflexion sur une série d'autres facteurs qui expliqueraient des comportements considérés comme socialement problématiques.
C'est ça. Alors on va en parler bien sûr, mais alors Julien Larègue, est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement, si c'est possible, et simplement les théories, parce qu'en fait il y a la criminologie biosociale aujourd'hui qui se développe beaucoup, notamment aux États-Unis. Elle s'appuie sur la génétique, mais pas seulement, aussi sur la statistique, sur beaucoup de choses.
Oui, alors je dirais qu'il n'y a pas de théorie justement fondamentale qui inspirerait tous ces travaux. Et je dirais qu'il n'y a pas de théorie aussi parce que c'est des travaux qui sont très empiriques, mais qui se posent finalement assez peu de questions d'ordre théorique au sens scientifique ou conceptuel, comme l'a relevé Yves Cartuvels. Et donc, on a beaucoup de travaux très quantitatifs, notamment qui sont réalisés à partir de ce qu'on appelle des twin studies, donc des études de jumeaux, où en fait à partir de jumeaux on essaye de déterminer dans les comportements de ces jumeaux
de jumeaux homozygotes quoi,
exactement. D'accord. Et dizygotes, et on compare du coup à partir du patrimoine génétique plus ou moins identique des jumeaux homozygotes et dizygotes, on essaye d'en déduire quelle est la part des facteurs génétiques et non génétiques, c'est-à-dire environnementaux ou sociaux, dans l'apparition des comportements criminels. Et donc c'est la principale application de ces travaux, à côté des neurosciences et d'autres branches sur lesquelles on pourra revenir.
Et c'est ça, la génétique moléculaire. Alors là, elle va beaucoup plus dans la physiologie, on pourrait dire.
Oui. Alors la génétique moléculaire, c'est l'idée que on va essayer d'identifier certains gènes qui seraient associés, par exemple, à la violence. On a un gène notamment qui a beaucoup défrayé la chronique, le gène AMAOA, qui serait le gène du guerrier, comme il a été surnommé, et qui expliquerait que certaines personnes soient plus violentes que d'autres. Voilà.
C'est ça. Alors, il y a cette tension, Yves Cartuvels, entre la recherche du gène du crime et puis une approche qui semble d'ailleurs beaucoup plus sensée, qui serait plutôt multifactorielle.
Oui. Alors, cette tension-là, elle existe depuis le début. Donc, l'école positive italienne a été d'entrée de jeu traversée par un conflit, un débat entre ceux qui défendaient l'idée d'une approche purement biologique, au fond de la nature criminelle, puisque ce que l'on cherche, c'est bien l'idée d'une nature criminelle, et Lombroso a été le père de cette école, et puis une approche qualifiée de multifactorielle, représentée par un autre auteur en Italie, Ferri, ou par l'école française. On a parfois considéré que l'école française était différente de l'école italienne. C'est remis en question aujourd'hui, parce que ce sont surtout des écarts finalement relativement mineurs, mais cette deuxième école-là met l'accent sur l'interaction entre des facteurs biologiques et sociaux dans l'explication du passage à l'acte criminel. Mais vous avez un point commun, qui est quand même que dans les deux cas, on reste sur l'idée fondamentale que le criminel existe, qu'il est doté d'une nature ontologique différente de celle de l'homme normal. Oui. Ce qu'on retrouve d'ailleurs de manière un peu surprenante aujourd'hui, puisque dans le livre de Julien Larègue, on voit une référence faite à un ouvrage publié par Wilson et Erstein en 1985 qui disent « le délinquant moyen est constitutionnellement distinct oui. ». La question évidemment est de savoir ce qu'est le délinquant moyen et si cette figure-là existe.
Ben vous disiez précisément, Yves Cartuvel, ce que le délinquant, en fait, c'est une construction sociale. Et ce à quoi on a assisté dans la deuxième partie du XXe siècle, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs avec les violences conjugales ou avec les violences sexistes, les violences de genre, il n'y a pas que le délinquant des rues, il n'y a pas que le délinquant de la cité, il y a les crimes de masse, il y a des violences qui peuvent être faites par absolument n'importe qui. On considère que le crime est une sorte de réalité brute, c'est le cas de le dire, et on se refuse à comprendre qu'il s'agit d'un fait social. Le béaba de la sociologie, pour Durkheim, c'est de dire, les crimes sont pas les mêmes dans toutes les sociétés.
Alors, c'est un béaba qui est effectivement posé par Durkheim, mais que l'on ne veut de fait pas voir, pas réaliser dans ses courants. Et donc, l'école positive italienne procède à ce qu'on peut appeler une chosification ou une réification du crime. Elle part des catégories pénales sans voir que ces catégories pénales sont des catégories qui sont culturellement construites.
Bien sûr.
C'est évidemment un enjeu tout à fait central. Si on accepte la variabilité du crime, que une personne ou que l'auteur d'un acte peut être criminel un jour mais ne l'être plus le lendemain parce que l'acte a été décriminalisé, il devient difficile, évidemment, de travailler à faire émerger une nature criminelle, puisque par définition, la personne, avec sa personnalité, est criminelle un jour et ne l'est plus le lendemain.
Julien Larègue.
Oui, alors ce qui est intéressant dans les théories contemporaines, c'est justement que les criminologues biosociaux essayent d'éluder ce problème en réalisant une distinction entre le crime comme catégorie pénale et le crime comme potentialité latente chez tout individu, par exemple, de devenir violent. Et donc, ils vont faire des comparaisons.
Comportement violent, c'est ça.
Exactement. Ils vont faire des comparaisons, par exemple, entre les grands singes et l'humain, en disant, regardez, chez les grands singes aussi, il y a la violence. Donc, on peut expliquer biologiquement pourquoi il y en a chez les humains sans se référer, justement, au crime comme catégorie pénale construite et du coup historiquement variable.
C'est ça. Mais Julien Larègue, est-ce que précisément il n'y a pas aujourd'hui une tentative, une mainmise des sciences médicales et génétiques sur la question de la violence, donc une redéfinition de la violence?
Alors il y a une tentative de redéfinition, je dirais pas qu'ils ont une mainmise parce que déjà il faudrait savoir de qui on parle. Par exemple, la médecine est un domaine très varié dans lequel il y a aussi des gens qui sont très critiques vis-à-vis de ces théories. Par contre, on observe depuis une trentaine d'années que certaines organisations comme l'OMS, etc., commencent à traiter la violence comme un problème de santé publique. Et donc, ces théories aussi s'inscrivent dans ce mouvement.
Voilà. Alors, la définition de la violence, cette confusion, Yves Cartuvel, entre délinquance et violence, c'est quelque chose de relativement nouveau ou c'est une problématique ancienne ?
La problématique est relativement ancienne, c'est-à-dire que très très vite, évidemment, quand on a travaillé sur la question du crime, on s'est penché sur des catégories qui indexent le crime à la violence. Chez Lombroso, qu'est-ce qui l'intéressait quand il cherchait la nature criminelle? Il travaillait sur des meurtriers, sur des violeurs, sur des prostituées en ce qui concerne les femmes. On ne s'est jamais intéressé, et je serais très curieux d'entendre au fond ce que les théories biosociales ont à dire là-dessus, sur la violence génétique que l'on retrouve, parce que c'est quand même une forme de violence sociale extrêmement importante, chez les criminels en col blanc, par exemple. Est-ce que on s'intéresse au patrimoine génétique que l'on pourrait détecter chez des personnes qui font de la fraude fiscale avec à la clé quand même des dommages sociaux qui peuvent être tout à fait considérables? Est-ce qu'on s'intéresse sur le patrimoine génétique de certains hommes politiques d'extrême droite qui, en Belgique récemment, donnaient comme conseil conseille de laisser des réfugiés mourir en mer, ce qui s'apparaît à une forme d'incitation quand même à une infraction pénale. Là, tout à coup, la question de la violence n'est pas interrogée. Donc, même si j'entends ce que Julien Larègue vient nous dire, la question de la violence n'est pas non plus étudiée pour elle-même. Elle est encore choisie, sélectionnée dans certains créneaux bien spécifiques.
Julien Larègue.
Bien entendu, on est tout à fait d'accord, je pense, pour dire qu'il y a un manque véritable de questionnement par les criminologues biosociaux de la catégorie délinquance au sens large, et notamment de la violence parmi d'autres, avec une focalisation sur ce qu'on pourrait qualifier de déviance des classes populaires, toute une abstraction qui est faite, par exemple, notamment, effectivement, la délinquance au col blanc. Et donc, si vous vous amusez à chercher criminologie biosociale, délinquance en col blanc, vous verrez qu'il y a très peu de résultats. Et pour cause, en fait, ils s'y intéressent très peu, à la fois pour des raisons liées à ce manque de questionnement et aussi parce que, on pourrait y revenir, ils ont certaines données qui ne leur permettent pas également de travailler ces questions parce que les bases de données n'ont pas été pensées comme intégrant ce type de délinquance.
Julien Larègue, on se représente, et c'est un des arguments, une des forces légitimantes de la criminologie biosociale, c'est d'invoquer la science. C'est-à-dire, la science, il n'y a pas cette subjectivité de l'expert psychiatre, non, c'est la science. Mais en réalité, ce que vous montrez, c'est que c'est pas du tout une science, c'est des querelles scientifique en réalité, l'école, la criminologie biosociale.
Oui, oui, oui. Déjà, il faudrait être clair sur le fait qu'il n'y a pas de science avec un grand S. Il y a des sciences qui se conduisent de façon collective et ces travaux en font partie. Mais effectivement, en fait, au sein même de ce courant, on a une division assez fondamentale entre des chercheurs qui utilisent la biologie mais pour, disons, peaufiner les théories sociologiques du crime traditionnelles, donc qui ne remettent pas du tout en cause que le crime est un phénomène social. Et à côté de ça, on a des chercheurs qui, eux, situent davantage dans la lignée d'un Lombroso, mais sans avoir les mêmes approches, pour autant, avec l'idée qu'en fait, le problème du crime est avant tout un problème génétique. Donc, on a cette opposition qui perdure encore aujourd'hui.
Et qui, entre les théories de l'environnement, une théorie génétique de l'environnement et une autre beaucoup plus physiologique, beaucoup plus génétique dure.
Exactement, exactement. On a d'un côté des travaux qui, tout en s'intéressant à la génétique ou aux neurosciences, mettent en avant l'impact des facteurs environnementaux, avec là aussi en fait un manque de questionnement sur ce qu'est l'environnement, parce que c'est une catégorie très large qui peut englober tout un tas de choses. Ça peut aller de l'alimentation jusque au type de quartier où vous vivez, etc. Et de l'autre, des chercheurs qu'on peut qualifier de pro-génétiques, c'est-à-dire qu'ils vont toujours mettre en avant l'importance des facteurs biologiques au détriment des facteurs non biologiques.
Yves Cartuvels, il y a une autre école sur laquelle vous avez beaucoup écrit et qui est encore différente, et pour que nos auditeurs aient un paysage complet, c'est la criminologie actuarielle, c'est-à-dire qui repose sur des statistiques.
Oui. Alors, je rebondis sur ce que Julien, sur votre première question quand même, avant peut-être d'aborder celle-là, sur la question de la science. Donc, de nouveau, on assiste là à une reproduction de ce qui s'est joué à la fin du 19e siècle. Un des gros arguments qui ont été mis en avant par les criminologues italiens à la fin du 19e, c'était que le droit pénal en vigueur, ce droit pénal néoclassique, au fond, ne faisait pas de science, ne faisait même plus de droit, mais faisait de la métaphysique. On voit aujourd'hui que ce qui est critiqué, c'est plutôt les courants de la sociologie interactionniste qui sont qualifiés de pseudo-sciences. Hein, c'est ce que Julien Larègue nous montre. Donc il y a eu toujours cette espèce de volonté de prendre appui sur une référence scientifique comme s'il y avait le monopole de la science, ce que vous trouvez d'ailleurs aussi dans le champ de la psychologie comportementale qui se définit, certains auteurs en tout cas dans ce courant-là, de psychologie scientifique comme si les autres ne l'étaient pas.
C'est ça.
Alors j'en viens à cette question de la justice actuarielle. Au fond, c'est peut-être un des enjeux majeurs derrière ce débat aujourd'hui, c'est d'assister à une remise en question d'un mode de gouvernementalité par le droit et de ses principes fondamentaux, mise en question et dépassement par une gouvernementalité par la science qui prend appui sur des logiques probabilistes en croisant une série de facteurs de risque. Nous sommes à l'ère du risque. Oui. Et donc la justice actuarielle, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui vise, plutôt que de chercher à comprendre, au fond, la délinquance, ce qui est un objectif plutôt de la sociologie, qui cherche plutôt à prédire les trajectoires de futurs délinquants possibles sur base de profils de risque que l'on obtient en croisant des variables abstraites auxquelles on pourra, permettant de définir un profil auquel on rattachera des individus par la suite. C'est un projet dans le champ de la pensée pénale qui est évidemment très très différent de ce que peuvent penser ou porter des magistrats aujourd'hui.
Alors, donc il y a par exemple un indice, Julien Larrec, il y a un indice de risque génétique.
Oui, c'est-à-dire qu'on va avoir des grilles d'analyse avec lesquelles on va construire un indice de risque qui est génétique mais aussi qui intègre des facteurs non génétiques. Comme vient de le relever Yves Cartuvel, en fait on a des grilles qui amalgame tout un tas de facteurs, de variables qui sont considérées comme étant des variables de risque. Et donc la criminologie biosociale s'intègre aussi dans cette voie en ajoutant de nouvelles variables aux grilles actuarielles de prédiction du risque.
C'est ça. Alors ils ont cette proposition que vous rapportez, que moi je trouve effarante, mais qui dit beaucoup de notre époque. Ils disent la réponse des gens qui veulent privilégier l'environnement, la société, les relations, les interactions, et la réponse de cette criminologie biosociale, c'est dire oui, mais une personne choisit son environnement en fonction de ses propensions génétiques.
Oui, alors ça peut faire sourire ou pleurer au
oui,
choix.
Oui, c'est ça, oui, comme on veut, oui.
Mais effectivement, alors là, c'est un point important, c'est-à-dire que dans cette criminologie biosociale qui est en fait divisée un peu en deux camps, mais dont l'un est plus visible, ce sont ce que j'appelle les progénétiques, c'est-à-dire qui concluent toujours que le génétique est supérieur à l'environnement pour comprendre le crime. Ils ont tout un tas de formules rhétoriques qui font que même si l'environnement est important dans un cas, ils vont trouver une façon de retourner la chose pour dire que oui, mais malgré tout, on choisit son environnement en raison de sa génétique. Voilà. Et c'est pour faire face à leurs concurrents, c'est-à-dire aux sociologues, et notamment aussi aux sociologues qui utilisent eux-mêmes la génétique dans leurs travaux.
C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fort aux États-Unis qu'en France, que sur le continent, ça. D'ailleurs, je crois, Yves Cartuvels, vous qui travaillez sur les deux, sur les deux continents, j'allais dire, c'est très très fort aux États-Unis.
Je suis pas certain d'avoir compris.
Je veux dire qu'il y a cette idée que la plupart des comportements humains sont d'origine génétique et que donc la réponse aux défis, finalement aux défis politiques, on va les chercher et les trouver dans des choses objectives et non pas dans la politique. Il y a une sorte de dépolitisation par la génétique ou par la prédiction statistique.
Oui, donc ça, je pense qu'effectivement, vous avez une tendance à une lecture biologisante des individus et aussi de leur responsabilité, qui est plus importante aux États-Unis que chez nous. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de s'interroger sur le pourquoi de cette biologisation du monde social et cette quête d'explication biologique. Est-ce que ça permet de refouler. Alors, ce que ça permet sans doute de refouler, vous l'avez évoqué, c'est une forme d'explication sociologique qui met l'accent sur l'importance d'expliquer des faits sociaux, comme le crime ou la maladie mentale ou d'autres, par d'autres faits sociaux. Alors, l'explication sociologique, elle est embêtante parce qu'elle questionne évidemment nos modes d'organisation sociale et leur impact sur divers phénomènes de société qui sont problématiques, comme le crime. Elle politise les enjeux.
C'est ça.
À l'inverse, la biologisation ou la médicalisation des problèmes sociaux, dont la délinquance, elle individualise, elle désocialise et elle dépolitise.
C'est ça.
Il y a sans doute là un prisme, un regard qui est très très différent et qui traduit aussi des projets politiques qui ne sont pas les mêmes.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Sauf les cul-de-jattes, ça va de soi.
Esprit de Justice, toujours avec Julien Larègue et Yves Cartuvels, qui est avec nous depuis Bruxelles. Et alors donc, vous avez choisi, Julien Larègue, vous avez choisi de nous faire écouter cette chanson de Brassens, La mauvaise réputation. Est-ce que vous pouvez juste expliquer votre choix?
Oui, mais je crois qu'il y a une réflexion intéressante dans cette chanson sur la notion même de déviance qui pourrait être presque qualifiée de sociologique.
Oui.
Et il y a un second degré de lecture qui est intéressant, c'est que ces criminologues, ils ont une assez mauvaise réputation aux États-Unis.
Ah oui.
Les facs de criminaux, notamment, sont situées dans des facs assez peu prestigieuses. Et donc, on a aussi une influence de ces facteurs sur la réception de leurs travaux dans le monde universitaire états-unien. Voilà. Donc, on a une lecture à double sens, à la fois notion de déviance et eux-mêmes, ces criminologues sont perçus comme étant déviants dans une certaine mesure, notamment aussi en raison de leur intérêt pour les théories biologiques du crime.
C'est ça. Mais Yves Cartuvels, cette insécurité disciplinaire, on pourrait dire, de la criminologie, elle a généré des débats assez rudes en France récemment.
Alors, elle a donné des débats assez rudes en France, et j'ai eu l'occasion d'intervenir dans ce débat, et la lecture du livre de Julien Larègue sur cette question, au fond, est tout à fait intéressante. Ce que montre Julien Larègue dans son ouvrage, c'est qu'au fond, le fait que la criminologie soit un champ qui n'est pas véritablement une discipline fortement construite sur elle-même, a été un argument utilisé par des criminologues biosociaux pour se créer une niche à côté des sociologues de la déviance qui étaient dominants. Et donc, on a vu monter alors aux États-Unis un mouvement, à mon sens, quand même très problématique. Et je pense qu'en France, ce qui s'est passé, c'est dans le chef des sociologues de la déviance, qui sont dominants dans ce domaine, la peur, si on voyait émerger des disciplines criminologiques, la peur de faire une place à des courants de même type. Et leur calcul n'est peut-être pas faux. Par contre, l'expérience que nous avons en Belgique est très différente, puisque nous avons des facultés, des départements de criminologie en Belgique, et que ce phénomène que Julien Larègue décrit aux États-Unis ne s'est pas produit. Peut-être parce que chez nous, les écoles de criminologie restent inféodées aux facultés de droit, et qu'il n'est pas impossible que le clivage actuel dans le champ du crime passe par une sorte d'alliance entre des juristes pénalistes éclairés, des sociologues constructivistes d'un côté, et puis de l'autre, psychologues comportementaux, des criminologues se rattachant à l'école positive italienne, biosociaux, etc.
Voilà. Oui, effectivement. Alors d'ailleurs, sur la controverse française qu'il y avait eu lieu quelques années lorsqu'on avait voulu créer une section criminologie au Conseil national des universités, ce qui était intéressant d'observer, en tout cas d'un point de vue de sociologue des sciences que je suis, c'était justement cette alliance entre des juristes pénalistes et des sociologues, qui est assez inédite, parce qu'il y a très peu d'échanges scientifiques entre ces disciplines, mais on avait une alliance, et de façon cynique aussi, on peut quand même souligner qu'il y a des intérêts en jeu. C'est-à-dire que, par exemple, en France, donc c'est un cas particulier, c'est pour ça que, comme l'a souligné Yves, il ne faut pas déduire de ce cas américain des choses pour d'autres pays que ça ne concerne pas, mais en France, par exemple, les instituts de criminologie qui sont affiliés aux facultés de droit donnent des diplômes qui sont payants, etc. Donc il y a des intérêts aussi en jeu dans le contrôle de la criminologie.
Alors il y a des intérêts en jeu aussi aux États-Unis et ça ouvre un nouveau chapitre sur la criminologie biosociale, parce que vous remarquez, Julien Larrey, que ce n'est pas uniquement à la disposition de la police pour justifier la répression. C'est aussi un moyen de défense aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. D'ailleurs, il y a une affaire célèbre en Italie.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait a priori penser que ces théories sont surtout d'inspiration totalitariste et donc répressives d'un point de vue sécuritaire.
Le fait est qu'elles ont débouché, Lombroso a débouché,
bien sûr.
C'est pas lui lui-même, mais bien sûr,
bien
il
sûr.
A été récupéré par
mais donc, en fait, ce que je pense démontrer dans mon livre, c'est justement ce caractère flexible des théories biologiques du crime qui peuvent autant s'accommoder de politiques totalitaristes, comme on l'a vu avec le régime nazi, que d'applications qui se veulent progressistes, et notamment aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine judiciaire, c'est principalement par les avocats de la défense que ces théories arrivent devant les tribunaux, parce qu'ils souhaitent éviter le prononcé de la peine de mort, souvent, contre leurs clients. Voilà. Donc, on a des applications qui se veulent progressistes, et d'ailleurs, un certain nombre de criminologues biosociaux insistent sur le fait que, au lieu de punir aveuglément des gens en les mettant en prison, il faut les aider, les soigner. Donc, on a toute une rhétorique aussi qui se veut humaniste pour justifier les applications potentielles de ces travaux en dehors du champ scientifique.
Et pour vous, Yves Cartuvès, qu'est-ce qui justifie le retour de ces théories aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a un tel besoin de trouver une explication, le gène du crime, une explication biologique à la violence et à la délinquance?
Alors, juste un tout petit mot quand même pour conforter ce que Julien Larrey vient de dire. À la fin du 19e, début du 20e siècle, au fond, les théories de l'école positive italienne ont été très très bien perçues dans l'Italie de Mussolini. Elles ont eu un impact aussi quand même dans les démocraties occidentales et elles ont été très très bien reçues en URSS, dans l'URSS naissante, puisque le code pénal de 1922 en URSS a été fortement influencé aussi par ces théories. Donc, de fait, on n'est pas avec un clivage gauche-droite, conservateur-progressiste, puisqu'on s'aperçoit que des pays développant des programmes politiques très très différents ont été intéressés. Je pense que le clivage passe plus par la question qu'on n'a pas encore abordée de la responsabilité et du déterminisme par les partisans du droit face aux adeptes de la science positive. Pour revenir maintenant sur votre question, qu'est-ce qui explique le retour aujourd'hui ? Bah, il y a toute cette dimension de biologisation du social qu'on a déjà évoqué, qui me paraît importante. Il y a un deuxième élément, sans doute, et c'est congruent dans le temps. Ces théories refont surface avec l'avènement d'un modèle néolibéral qui est marqué sur le plan pénal par le déclin des idéaux de ce qu'on a appelé la pénalité welfare, axée sur des idéaux de solidarité, de réintégration,
de réinsertion,
de réhabilitation, de réinsertion. Et donc on voit cette théorie émerger à un moment où le regard sur le délinquant, considéré jusque-là comme un individu, comme un autre d'une certaine manière qui s'est mis en dehors du champ social pendant un temps, a quand même vocation à réintégrer le champ. Or, ce que cette théorie vient alimenter comme mouvement, c'est un autre mouvement de gestion, de contrôle de population à risque qu'il s'agit de détecter, d'identifier, de catégoriser, de classer en fonction de facteurs criminogènes dans le cadre d'une forme d'hygiénisme social. Alors, c'était déjà, par ailleurs, le programme de l'école positive italienne à la fin du 19e siècle. Et si on la compare, si on compare ce projet avec le projet d'Adrian Rehn qu'évoque Julien Larrey à la fin de son ouvrage, le projet intitulé d'ailleurs Lombroso,
oui,
qui est une sorte de science-fiction, on retrouve exactement ce qui s'est pensé à la fin du 19e et ceci dans le cadre ou avec un projet très congruent avec ce modèle de gestion des risques promu par le New Management Public.
Un mot sur ce programme de Rehn alors.
Oui, alors bon, c'est un programme très programmatique puisque ça relève plus de la science-fiction que de la réalité. Mais en fait, Adrian Rehn, donc qui est un neuroscientifique qui travaille à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, imagine la mise en place en 2034 d'un programme prédictif par lequel on interviendrait sur des populations à risque à partir justement des facteurs de risque qu'on aurait identifiés, donc notamment génétiques ou cérébraux, et on interviendrait donc avant même que ces personnes aient la chance ou la malchance
c'est
de commettre un acte délinquant.
Minority report. Oui.
C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et donc, plutôt que d'enfermer ces personnes dans des prisons, comme on le fait actuellement, Rein a cette idée qu'il décrit comme humaniste, selon laquelle il faudrait placer ces personnes dans des centres de soins où on leur prodiguerait un accompagnement qui leur permettrait justement, peut-être, si c'est possible, de surpasser ces facteurs de risque.
C'est intéressant parce que cette dimension pénible de la peine a totalement disparu. Ça peut être des colonies de vacances. Il faut plus faire souffrir les gens. On est sorti totalement du modèle rétributif, donc moral et politique. On ne cherche plus à sanctionner un comportement. On cherche à soigner et à surtout écarter et prévenir le risque.
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en dessous de la rhétorique qui peut être juste une justification de ces théories et une façon de vendre aussi ces théories aux décideurs publics, il y a aussi un argument économique sous-jacent qui est de dire la prison ça coûte cher, la délinquance ça coûte cher, la violence ça coûte cher, et donc nous avec nos travaux on va permettre d'économiser beaucoup d'argent aux sociétés contemporaines en traitant le crime avant qu'il ne commette tous les dommages qu'on sait. Voilà, donc c'est un peu cette idée, et c'est là que le lien effectivement avec les théories néolibérales est intéressant, puisque c'est à la fois des facteurs scientifiques et économiques qui justifient, selon ces chercheurs, l'implémentation de politiques publiques de prévention.
Yves Cartuvel, on n'est pas très très loin de cela, quand dans la qualification d'association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste, ou dans les violences conjugales, il y a une demande sociale derrière de nous protéger, de protection, et de protection qui va au-delà du problème quasi métaphysique que pose le crime.
Oui, alors de nouveau, cette tendance-là, elle n'est pas particulièrement révolutionnaire. On retrouve exactement le même type de tendance et le même type de discours à la fin du 19e siècle. Pour rappel, l'école positive italienne s'oppose tout à fait à la logique rétributive qui est portée par le mouvement du droit pénal néoclassique et veut sortir des catégories d'infractions et de peines. Ce qu'on propose, au fond, ce sont des mesures de défense sociale, ce sont des mesures de soins, des mesures de traitement, mais qui se traduisent aussi dans les faits par des mesures de contrôle à durée indéterminée. Et le paradoxe, c'est que au fond du bien de l'individu, on en arrive à des systèmes qui sont finalement beaucoup plus contrôlants et beaucoup plus répressifs. L'enjeu aujourd'hui, me semble-t-il, nous renvoie quand même... Enfin, il y a une logique derrière ce qui est en train de se passer. Dès lors que, dans ces logiques biosociales, on pense à un individu qui n'est pas responsable, doté de libre arbitre, mais qu'il est déterminé par son patrimoine génétique ou par son milieu, mais la conséquence, elle est assez logique. Elle est qu'il est irresponsable. S'il est irresponsable, on ne va pas le punir. Non, on va le traiter comme un malade ou comme quelqu'un qui représente un danger social. Et il se fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de sociétés qui sont très très marquées par la question du risque, par la peur de l'avenir, il y a une tendance montante à dépasser le discours du droit par celui de la médecine pour protéger de manière préventive, au fond, le social contre toute une série de personnes qui sont considérées comme problématiques. La médecine, quand elle devient hygiéniste d'une certaine manière, sort des cadres du droit qui sont aussi des cadres protecteurs. Je pense qu'un enjeu clé, on ne l'a pas évoqué, c'est celui-là. C'est l'affrontement entre une régulation par le droit et une régulation à fonction sanitaire et sécuritaire qui prend appui sur la science et sur les sciences biologiques notamment.
Oui, alors ce qu'il faut souligner aussi, c'est justement cette convergence d'intérêts entre des acteurs comme les criminologues biosociaux qui militent pour une médicalisation du crime et d'autres acteurs qui sont dans le monde judiciaire ou qui gravitent autour, qui sont qu'on peut qualifier d'abolitionnistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce que disent les criminologues biosociaux, c'est « mais oui, depuis tout ce temps, vous aviez raison, la prison, c'est mauvais, c'est terrible, c'est cher économiquement et ça ne marche pas. Nous, ce qu'on propose justement, c'est de prévenir le crime, de médicaliser, de soigner ces gens qui ont des vrais problèmes qu'il faut traiter plutôt que de les punir pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables. »
« qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école, mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Cernin illumine le soir.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
D'une fleur de corail que le soleil arrose.
Esprit de Justice, toujours avec Julien Larègue et Yves Cartuvels. Yves Cartuvels qui a choisi de nous faire écouter Claude Nougaro sur Toulouse. C'est un choix qu'il est loin mon pays. C'est surprenant pour quelqu'un qui est à Bruxelles, Yves Cartuvels.
Oui. Oh, écoutez, c'est un choix du cœur.
Très bien.
Il n'y a pas de situation particulière, alors, mais voilà, quand j'avais 27 ans, j'ai passé un an à Toulouse, quittant Bruxelles, arrivant dans cette ville dans des conditions sans travail, sans emploi, etc. Donc voilà.
C'est ça, vous avez.
Et je garde un souvenir merveilleux de cette ville qui reste un point d'attache extrêmement important pour moi.
Moi, je pensais, Yves Cartuvels, que vous aviez choisi cette chanson parce que les coups, la castagne, une ville finalement assez permissive, ouais. Je me suis dit, bah voilà, ça m'amène à poser la question que je voudrais vous poser à tous les deux pour cette dernière partie d'émission. Tout cela est très intéressant parce qu'on voit, et vous nous montrez très bien que finalement, il y a la criminologie biosociale, elle cherche à dépasser le modèle rétributif, mais la sociologie, l'approche sociologique, celle qui cherche des causes sociales à la délinquance, celle qui cherche à la réinsertion, comme vous le disiez Yves Cartuvels, elle est prise en étau. Elle est prise en étau entre, d'une part, la culture de l'excuse que la droite, pour faire court, reproche aux sociologues en disant « oui, mais vous cherchez toujours des excuses au crime, il faut revenir à une responsabilisation dure par la sanction », et puis d'autre côté, la criminologie biosociale. Alors je m'adresse d'abord à Julien Larègue. Comment vous voyez cette tension, cette...
Oui, Antoine Garapon, alors là, je pense qu'on a une question très importante, c'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, les sociologues travaillent sur des facteurs causaux, par exemple sur la délinquance, sur la pauvreté, sur la famille, etc.
C'est ça. Le traitement social de la misère, traitement pénal de la misère.
Mais ça n'a strictement rien à voir avec les solutions politiques éventuellement imaginables pour résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que Durkheim le disait déjà, quand on dit que le crime est un phénomène social normal, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être moralement indigné face à un acte de délinquance. Donc ces rhétoriques politiques sont très pauvres puisqu'elles ignorent complètement ce qu'est la science et ce qu'est la sociologie.
Alors, Yves Cartuvels, votre réponse, finalement, comment trouver une voie dans cette prise en étau entre, d'une part, le reproche de la culture de l'excuse, d'autre part, le reproche de l'absence de scientificité, d'approche de science, et puis la logique, finalement, génétique, objective, qui dépasse le traitement par le droit?
Mais écoutez, la culture de l'excuse, je vous avoue que j'ai jamais compris. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut dire que chercher à comprendre des phénomènes sociaux est une manière de les excuser. Chercher à comprendre, c'est se donner les moyens aussi de réagir de manière juste à des phénomènes qui se produisent. Si, en matière de terrorisme, vous vous contentez de dire, derrière chaque auteur, vous avez une personne qui est génétiquement déterminée, et que vous ne cherchez pas à comprendre les mécanismes qui alimentent le terrorisme, je ne vois pas très bien comment vous allez y répondre. Donc, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les faits sociaux, les faits culturels qui sont sous-jacents à une série de phénomènes si vous voulez chercher à y répondre d'une manière qui soit intéressante pour une société donnée. Donc, j'ai envie de dire que là, je ne suis pas sociologue, moi je suis juriste. Mais il me semble que les sociologues ont raison de continuer à défendre leur mission, qui est d'essayer d'éclairer de manière empirique le fonctionnement de nos sociétés contemporaines et de l'ensemble des problèmes qui se produisent au cœur de ces sociétés-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une montée en puissance des victimes et une opinion, oui. Julien Larecq, je poserai la même question ensuite à Yves Cartuvels, finalement une demande de sécurité et de protection, et la science est paradoxale plus sécurisante, parce qu'il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, c'est une vérité en raison.
Alors je ne sais pas s'il y a une demande particulière de la population, que ce soit française ou états-unienne, pour davantage de contrôle. Souvent c'est des a priori qu'on peut avoir, notamment dans la sphère politique, mais qui sont rarement démontrés. C'est-à-dire que...
Qui sont beaucoup plus forts aux États-Unis. Le thème de la sécurité est beaucoup plus fort politiquement.
Le thème de la sécurité est présent, mais ça ne veut pas dire que les gens, dans leurs problèmes quotidiens, ressentent la sécurité comme étant le premier de leurs maux et comme la première chose à résoudre. Et donc, il faudrait déjà savoir de qui on parle, de quel type de population. Voilà, donc on peut dire, comme le disait Bourdieu, que l'opinion publique n'existe pas. Il faut savoir précisément de quoi on parle. Malgré tout, les politiciens, enfin certains en tout cas, hein, pas tous, se servent de ce soi-disant sentiment d'insécurité pour justifier des politiques qui sont parfois répressives. Oui, effectivement.
Alors, Yves Cartuvels, votre réponse.
C'est-à-dire, moi, je rebondirais sur la première partie de ce que vous avez évoqué. Si j'entends bien ce que vous dites, c'est au fond, nous sommes dans des sociétés qui sont marquées par des formes de peur, d'insécurité, et donc là, la science serait une réponse rassurante, parce que la science dit le vrai, et que là, on ne discute plus. Si on se penche un petit peu sur la manière dont les scientifiques gèrent la crise du Covid aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en tout cas, je peux vous dire que chez nous, les querelles d'experts sont sur tous les plateaux, et l'idée qu'il y aurait une science qui dit le vrai sur une situation, c'est quelque chose auquel on ne croit plus beaucoup. Donc je ne suis pas certain que la science soit en mesure de donner aujourd'hui des réponses qui sont particulièrement rassurantes. Le spectacle qui est donné, c'est plutôt quelque chose qui est très, très vrai par ailleurs et qui n'est pas nécessairement problématique, c'est que la science, elle progresse, elle avance, c'est des querelles, la querelle est au cœur de la discussion scientifique. Peut-être que ce avec quoi nous avons à réapprendre à vivre, c'est la notion de pari. Vous discutez avec des magistrats, ils le savent, en justice on décide, eh bien la décision judiciaire, il y a une part de pari. Peut-être devons-nous apprendre à revivre avec cette part de risque et avec cette part de pari, en faisant le deuil d'une sorte de vérité de surplomb qui nous donnerait des réponses toutes faites.
Julien Larecq, est-ce que vous insistez beaucoup là-dessus dans votre livre, que dans le fond il y a une réévaluation du rapport entre la nature et la culture, parce que ce qui est inscrit dans les gènes, on peut dire de manière très sommaire, mais c'est quand même partagé par beaucoup, c'est la nature. On n'est plus dans la culture. La culture, c'est le droit, c'est la responsabilité, c'est les constructions sociales. Là, on est dans la nature.
Oui, alors c'est une dichotomie qui continue beaucoup d'alimenter les travaux de ces criminologues et leurs désaccords. En fait, ce que je pense démontrer, c'est que c'est la question de base, c'est-à-dire est-ce que c'est naturel ou culturel, est tout à fait problématique, c'est-à-dire que c'est pas une question scientifique, c'est une question peut-être philosophique et encore pas tout à fait récente. Mais d'un point de vue scientifique, en fait, bien entendu que le cerveau a une influence sur nos comportements humains, puisqu'il n'y a pas d'humain sans cerveau, mais c'est tout aussi ridicule de nier que des facteurs sociaux puissent influer sur les comportements des gens. Donc la question n'est pas tant de savoir si les facteurs cérébraux ou sociaux sont importants, puisqu'ils le sont, mais c'est de savoir comment ils interagissent. Donc, en fait, cette dichotomie, cette opposition nature-culture, qui est un héritage très lointain, à mon avis, pose fondamentalement problème si on veut parvenir à une véritable compréhension scientifique et pas simplement à des querelles intestines pour contrôler une discipline ou un domaine de recherche.
Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé encore ce soir, mais qui me semble très importante, c'est le neurodroit. C'est-à-dire, alors c'est pas tout à fait notre sujet, hein, mais c'est un sujet qui est proche. C'est-à-dire qu'on a vu se développer, en même temps que la criminologie biosociale, ce qu'on appelle la neuroéconomie, le neuromarketing, la génopolitique, la neuropédagogie. Et vous remarquez d'ailleurs, Julien Larrère, que en termes de pédagogie, les neurosciences sont aujourd'hui pas toutes puissantes, mais elles sont extrêmement puissantes. Et en quelque sorte, la criminologie biosociale serait une part de ce mouvement, de ce grand mouvement des neurosciences.
Oui, alors c'est un mouvement qu'on peut qualifier de biosocial, qu'on observe dans différents domaines, notamment dans le domaine de l'école pédagogique, dans le domaine économique. Malgré tout, et c'est peut-être un défaut de ma conclusion, il ne faut pas surestimer la force de ces techniques et leur capacité à s'imposer. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un tas de domaines, et le droit en est un, où les neuroscientifiques et les experts qui utilisent ces travaux ont beaucoup de mal, et c'est le cas en France notamment, à faire valoir leur technologie et à justifier leur usage dans le domaine pénal notamment. Donc en fait, il ne faut pas uniquement, à mon avis, se concentrer sur les succès ou estampiller comme tel des neurosciences, mais aussi sur leurs échecs et leurs difficultés à s'imposer comme des pratiques valides auprès de certains professionnels.
Yves Cartuvels, le neurodroit, j'imagine qu'on en parle aussi beaucoup en Belgique, toute cette introduction de l'imagerie médicale par exemple, voire d'ailleurs des techniques pour essayer de trouver la vérité de quelqu'un par la vérité de son cerveau. C'est ça le grand fantasme qu'il y a derrière la criminologie biosociale.
Oui, je vous avoue que je suis ennuyé de répondre à cette question parce que j'ai pas travaillé cette question du neurodroit, et le recours à l'imagerie médicale chez nous reste extrêmement restreint.
Alors, oui, donc, oui. Alors qu'en France, il y a des lois là-dessus qui ont sorti.
Alors oui, la France est d'ailleurs le premier pays au monde.
C'est ça, faut le savoir.
Ce qui est intéressant, bien sûr, à avoir légiféré sur la question par la loi bioéthique de 2011 et à autoriser expressément le recours à l'imagerie cérébrale dans le domaine judiciaire. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est utilisé. C'est quand même assez utilisé dans le domaine du droit civil, où c'est souvent des dossiers médicaux qui sont versés en fait au dossier de la procédure. Mais en pénal, c'est encore très discuté et c'est très peu utilisé, voire je ne sais même pas s'il existe à ce jour des cas où l'imagerie cérébrale aurait été vraiment activement utilisée dans un procès pénal.
Yves Cartuvels, pour conclure, tout cela semble quand même participer, vous parliez de gouvernementalité qui a changé, c'est-à-dire la manière de conduire les hommes qui a changé, tout ça semble quand même, comment dirais-je, alimenter ce qu'on pourrait appeler un déclin du droit, peut-être même une sortie du droit au cœur de nos sociétés. Qu'est-ce qu'il y a de plus central que le droit pénal et les définitions de ce qui est interdit?
Oui, donc je pense que un enjeu fondamental est bien celui-là. Est-ce que nous allons sortir de sociétés qui sont régulées par le droit, avec le modèle de l'état de droit qui est quand même un héritage des Lumières, puisque le droit moderne, avec les principes garantistes qui sont les siens, remonte à cette époque-là, et dans des sociétés qui sont dominées par de plus en plus par la technique, et les nouvelles technologies de communication évidemment aident à cela, est-ce que on va se laisser gouverner plutôt par la science, les chiffres, les statistiques, dans un monde qui est dominé par les algorithmes et les big data? Quelle influence est-ce que cela pourrait avoir sur notre capacité à assumer des décisions, à les prendre, à faire des choix? Je pense qu'il y a un enjeu là qui est effectivement au cœur des choix en termes de gouvernementalité qui nous attend au XXIe siècle.
Julien Larrigue.
Oui, je pense qu'un enjeu pour les années à venir, pour le sociologue que je suis, sera justement d'analyser la façon dont ces technologies sont mobilisées dans le cadre judiciaire. De façon plus ou moins importante, pour justement essayer de comprendre cette interaction entre science et droit, parce que certes la science influe sur la pratique du droit et sur la gouvernementalité, mais le droit, les raisonnements juridiques influent aussi sur la façon dont la science est reçue. Par exemple, les règles de procédure pénale en France et aux États-Unis, pour que quelqu'un soit qualifié d'expert, il faut remplir certaines règles, suivre une certaine procédure, ce qui fait que, par exemple, les neurosciences sont parfois rejetées encore aujourd'hui. Et donc, le droit a des capacités de résistance, à la fois au sens formel juridiquement, mais aussi sociologiquement parlant.
Est-ce que on n'est pas en face d'un phénomène de mode, ce qui est bien sûr réducteur, et c'est pour ça que je ne dis qu'à la fin, de mode, c'est-à-dire pour l'instant, il y a une sorte d'engouement, d'enthousiasme, Julien Larrigue, pour la criminologie biosociale, mais que ça va retomber une fois qu'on va voir finalement la faible capacité prédictive qu'elle a.
C'est possible. Malgré tout, ce qu'il faut observer, c'est que des référents biologiques sont présents dans la sphère judiciaire depuis un certain temps, et c'est notamment le cas de l'ADN, qui est très présent dans les enquêtes et les procédures pénales. Et donc, de par cette entrée qui est déjà existante, il est plus facile de franchir un nouveau pas et d'avoir recours à d'autres types d'entités biologiques qui vont venir enrichir la pratique des professionnels du droit.
Et Yves Cartuez, le mot de la fin, comment voyez-vous le devenir de la criminologie avec ou contre ou en complémentarité avec cette tendance biosociale ?
Alors, je vais rebondir sur le terme que vous avez repris dans la chanson de Nougaro, vous avez évoqué la castagne. Oui. Je pense qu'on est quand même face à une bataille. Je pense qu'on est face à une bataille entre ceux qui défendent des principes qui sont ancrés dans la culture du droit, dans la culture juridique, et ceux qui prennent appui plus sur des logiques actuarielles, parce que je crois que plus que la criminologie biosociale, ce sont ces logiques actuarielles qui sont sans doute la grande tentation de demain dans le monde des big data, avec un risque de robotisation de la justice, de déshumanisation des justiciables et des juges, et peut-être aussi de déresponsabilisation, parce qu'à partir du moment, au fond, où ce sont des grilles statistiques qui permettent de décider du sort d'individus et de sujets, ça permet aussi de s'éviter la responsabilité de la décision.
On restera sur ces propos à la fois interrogatifs, mais peut-être un peu pessimistes. Merci beaucoup, Julien Larrigue. Merci, Yves Cartuvels.
Merci, Antoine Garapon.
Merci beaucoup, Antoine Garapon.
Merci beaucoup, Esprit de Justice, Julien Larrigue, Yves Cartuyvels, Bruno Mourlan, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h. Bonne soirée.